Bonjour, bienvenue dans le goût du monde. Aujourd'hui, c'est près du fournil que nous allons nous asseoir, les pieds bien ancrés dans la terre et dans les mains, les seuls ingrédients nécessaires à la confection d'un trésor, à la confection du pain, de l'eau, du sel, de la farine, l'amour et le savoir-faire en prime, bien sûr. Ce pain que nous mangeons tous les jours, vous lui avez dit non, de toi, je ne mangerai pas. Un cri, un manifeste et un plaidoyer, vous, c'est Adriano Farano, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes italien.
Personne n'est parfait.
Personne n'est parfait, mais nous on aime beaucoup les Italiens. De Navi, c'est un peu italien aussi.
Génial.
Vous êtes originaire de la côte amalfitaine, on est près de Sorrente, on est près de Naples, donc aussi vous êtes journaliste et boulanger à Paris.
Ménilmontant, mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite église où les mariages allaient gaiement, quand je revois ma vieille maison grise, même la brise parle d'antan.
Alors, Adriano Farano, cette chanson, Ménilmontant, où est-ce que nous sommes ?
Nous sommes dans un village, nous sommes aujourd'hui à Paris, mais ce qui était naguère un petit village de Belleville, lorsque ce morceau de terre qui était quand même difficile à arpenter, représentait un peu la source de l'eau qui était source de vie aussi pour les Parisiens. Encore aujourd'hui, il y a pas mal de petites ruelles de Ménilmontant dans lesquelles on sent encore cette eau regorger. Et c'est un quartier dans lequel nous sommes arrivés avec donc notre boulangerie naturelle Pane Vivo, un peu par hasard, parce qu'on cherchait tout simplement un lieu pour transformer un fournil qui soit doté d'une extraction, c'est-à-dire une petite cheminée pour que les buées du four à pain puissent pouvoir se défouler. Et nous sommes donc tombés au 49 rue de la Chine, qui s'appelle comme ça au départ grâce à l'Empire du Milieu, mais qui aurait par la suite donné son nom au verbe chiner en français, parce que c'était avant le théâtre d'un très joli marché d'antiquaires. Et c'est là donc que deux semaines avant le début du confinement, on savait pas d'ailleurs que c'était en train d'arriver, nous avons
installé
tranquillement la fleur dans les fusils, commencé notre bataille très militante pour redonner au pain la place qui est la sienne au centre de notre alimentation et au centre aussi de notre civilisation.
Je voudrais savoir qu'est-ce qu'on sent dans l'air. Là, on est rue de la Chine. Quel parfum on a?
On a des parfums. Alors aujourd'hui de bon pain, grâce à nous, il faut le dire, mais on sent l'humanité. Et donc pendant le confinement, c'est drôle parce que les gens ont retrouvé chez Pane Vivo un petit phare justement de cette humanité qu'ils chérissent. Et ils ont commencé non seulement à acheter notre pain, des fois un peu en débordant nos propres capacités de production, mais aussi et surtout à l'acheter pour le donner à leurs voisins, peut-être qui étaient malades à la maison. Moi, des fois, j'apportais ma guitare en chantant traîner ou alors des chansons napolitaines. Juste à côté, il y a un magnifique jardin secret qui a été volé à de l'exploitation immobilière qui est tenue par les habitants du quartier. Ils nous invitent souvent pour faire des apéros, etc. Ça régorge de vie, ouais.
Est-ce qu'on a le parfum du pain ?
Oui, il y a le parfum du pain.
Parce que ceux qui nous rejoignent sur RFI dans le goût du monde, on entend parler de pain, on entend parler de parfum, de Paris, de Ménilmontant. Mais à la base, si vous êtes là, c'est pour ce manifeste que vous avez écrit. Je ne mangerai pas de ce pain-là. Et je voudrais savoir de quel pain on va parler, bien sûr, tout au long de cette émission. Et surtout, à l'origine, la graine de votre révolte.
La graine de ma révolte a été, en fait, une double révolte. Une révolte à la fois contre un pain qui a été détrôné de ce centre névralgique de notre alimentation comme une source de vie et une source d'amélioration de nos défenses immunitaires grâce aux minéraux, un aliment finalement très simple avec, comme vous l'avez dit au début, et qui a été transformé de facto dans la pointe d'un iceberg beaucoup plus grand, c'est ce que j'appelle l'industrie agro-boulangère. Après, c'était également une révolution contre ceux qui disaient, ah bah finalement, le pain aujourd'hui est tellement mauvais qu'il faut juste pas en manger, ou alors il faut manger du sans gluten. Et je le raconte un peu dans l'introduction de mon livre.
Mais justement, je vais vous inviter à la lire. Vous avez une amie donc, qui vous dit un jour, écoute Adriano, je pense que pour toi, pour ta santé, pour ta famille, je te conseille d'arrêter le gluten. Et votre réaction est la suivante.
Ma che dici, vraiment? Tu veux dire plus de tagliatelle au ragout qui mijote le dimanche, ni de spaghetti au vongole veraci, cuite vivante chez Zaccaria à Amalfi? Plus de pizza aux fleurs de courgette en choix, cuite au feu de bois dans mon four en argile si beau? Et ni de bruschetta aux tomates du Vésuve qu'on laisse mûrir, accroché à un mur, suspendu, jusqu'à ce qu'on meure d'envie de les manger? Tu veux dire aussi que ce serait fini pour moi ce parfum enivrant de ma madeleine de Proust, cette trèche à brioche tressée que j'allais chercher tous les matins à la boulangerie, allée magique de ma ville natale, cave à près de Naples, au nom pourtant bien français. Et bien sûr, plus de profiteroles fourrées à la crème pâtissière, parfumées aux zestes de citron de Sorrente, enveloppées dans une voluptueuse crème de limoncello.
Alors moi j'ai eu la chance de lire évidemment l'introduction, je n'ai eu qu'une envie, c'est de manger tout ça. Bien sûr. Donc ça, c'était un renoncement parce que son contenu dans tous les ingrédients dont vous parlez dans cette introduction, de la farine et donc potentiellement du gluten. Et ça, vous avez dit non, pas d'accord.
C'est ça, il m'aurait été d'une certaine façon défendu de les manger si jamais j'étais passé du côté obscur de la force, c'est-à-dire dans le monde du sans gluten. Et donc je l'ai pris un peu comme un défi, comme un challenge, parce que c'est vrai que ce pain que mon ami avait refusé était un pain que j'avais fabriqué avec amour, qui venait de sortir de ce four en argile que j'avais fabriqué avec mes mains et avec les pieds de mes enfants qui foulaient donc dedans avec de la paille. J'étais allé chercher, il faut rappeler qu'à l'époque je vivais en Californie, dans la Silicon Valley, donc on avait une 300 jours de soleil par an, on avait une très belle cour avec des chênes verts, etc. Voilà, et c'était difficile de faire du bon pain, et pour moi, celui que je venais de sortir du four était du bon pain. Ce n'est qu'au moment où, effectivement, grâce à cette copine, j'ai pu commencer à mettre vraiment le nez dans le pétrin, dans le fournil, que je me suis rendu compte qu'elle avait raison. Je me suis rendu compte en fait que la farine que j'avais choisie est une farine de supermarché lambda qui était issue de blé, ce qu'on appelle moderne, des blés nains qu'on a choisi uniquement parce qu'ils sont en fait beaucoup plus productifs que les blés anciens, que j'utilisais à l'époque, horreur de la levure de boulanger, je n'utilisais pas du tout du levain naturel, et du coup en fait que tous les choix que j'avais fait, malgré le goût de ce pain qui était quand même très sympathique, était mauvais.
Justement, ça a été le point de départ pour vous d'une grande enquête, parce que là, vous dites aujourd'hui horreur, la levure, horreur, tout ça. Cependant, il vous a fallu 3 enquêtes du bon blé, en réalité.
Oui, du bon blé, de la bonne farine.
Et
du
de
bon
comment
pain.
Est-ce qu'on s'est perdu? Parce que ce perdu bon blé, il oui. existait. Oui. C'est ainsi que vous le découvrez.
Tout à fait. C'était un blé qui avait mis environ 10 000 ans pour pouvoir vraiment devenir ce qu'il était, c'est-à-dire une plante qui était en phase avec son environnement, qui était aussi en phase avec l'homme qui la cultivait, qui bien évidemment a procédé au fil des siècles à des actions de ce qu'on appelle sélection massale, c'est-à-dire d'une sélection génétique sur le champ, sans outils particuliers. Des fois, d'ailleurs, cette sélection de plantes était guidée par des critères non seulement de production, bien évidemment, mais aussi des critères esthétiques. C'est pour ça qu'on a certaines variétés, par exemple le barbu du Roussillon, qu'on définit parce qu'il a une petite barbe. On a après, ensuite en France, par exemple, encore aujourd'hui, une petite production de blé dur qu'on appelle poulard, parce qu'en fait ça ressemble à une poule, et donc on voit bien que Homo sapiens, donc nos ancêtres, à partir de la domestication du blé, donc il y a 10 000 ans au Moyen-Orient, petit à petit ça a été rapporté en Europe et on a créé cette biodiversité des blés.
D'ailleurs, la France justement se caractérisait par un terroir et donc des pains qui exprimaient ce terroir?
Dans chaque terroir, dans chaque petite province, vous aviez à chaque fois des variétés à la fois de blé très spécifiques qu'on ne trouvait que dans cet endroit parce que tout simplement, ils étaient le fruit du travail de la labeur de l'homme et d'un certain biotope qui allait donc impacter la composition génétique de ces plantes, mais aussi des variétés de pins.
On avait une cartographie complètement. On allait plus à l'est, on avait du seigle, des pins plus sombres, plus noirs. On allait dans le centre, davantage de blé. C'était une cartographie de couleur et esthétique. Qu'est-ce qui a été la mauvaise eau qui s'est mise dans cette sélection, en fait, qui était empirique?
C'est à partir... Alors, il y avait eu des pionniers avant, donc notamment en Italie, avec un agronome qui ensuite serait devenu l'agronome du régime fasciste, qui avait donc compris qu'il y avait ces plantes japonaises, ces blés qui, en fait, étaient beaucoup plus bas que les blés européens et qui, du coup, allaient être beaucoup moins assujettis au phénomène de l'averse, c'est-à-dire qu'ils allaient se tenir plus droit et tomber moins et, a fortiori, augmenter les rendements. Il s'appelait Nazareno Strampelli. On est en 1913. Finalement, ces expériences mèneraient donc au succès du régime fasciste dans son défi de l'autarchie, donc d'essayer d'être indépendant en termes de production de blé, mais il ne serait repris en masse qu'avec ce qu'on appelle la révolution verte des années 60. Révolution verte qui a été financée lourdement par tous les gouvernements du monde, mais aussi par des fondations privées américaines, dont la fondation Rockefeller, et qui avait, entre guillemets, la bonne intention d'augmenter les rendements du blé. Sauf que ces variétés naines, ces variétés de ce que j'appelle dans le livre de blé mutant, d'origine donc japonaise, présentent plusieurs inconvénients, le premier desquels étant qu'elles sont peu riches en protéines. Qu'est-ce que ça veut dire? Que du coup, elles ont besoin de beaucoup plus d'azote qu'elles devront extraire donc du sol. Et comme c'est beaucoup plus simple, entre guillemets, de doper un sol en engrais azoté, aujourd'hui on se retrouve avec un minimum de 150 kilos d'engrais chimiques nécessaires pour qu'un hectare de blé puisse pousser. Du coup, on doit aussi rajouter du gluten pur dans la farine. C'est le cas de pratiquement toutes les farines de toutes les boulangeries en France. Non seulement on va avoir des blés qui sont foncièrement indigestes, au gluten trop ténace, on va rajouter du gluten pur. On l'appelle le gluten vital, avec ce qui pour moi est un oxymore tout à fait aberrant, parce que la vie c'est bien autre chose. Vous prenez de la farine, vous prenez une pâte, vous la faites tourner à toute vitesse dans un pétrin, vous lavez cette pâte immonde, et ce qui vous reste, ce blob infâme, c'est le gluten vital. Le gluten vital, ensuite vous allez le chauffer, vous allez le broyer, vous allez le transformer en poudre.
Et là on est en train de faire fier tout le monde là.
Et vous le rajoutez à la farine.
Donc on est d'accord que c'était une mauvaise piste, que cette révolution verte n'a pas du tout amené ce pourquoi elle était conçue initialement. Et vous, c'est ce que vous découvrez au fil de vos recherches. Surtout la conclusion que vous faites, c'est quoi? C'est qu'entre un blé comme celui-ci ou un blé ancien, vous faites vite votre choix.
Évidemment. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les blés anciens ont un rendement qui est inférieur au blé moderne, mais c'est un rendement qui est inférieur aussi parce que les blés anciens n'ont pas besoin d'engrais azoté pour pousser, parce que justement ils ont toujours poussé et qu'à l'époque il n'y en avait pas, c'était juste des engrais normaux quoi. Ils pratiquent aussi, les agriculteurs qui les cultivent, le mécanisme et la rotation, donc ils vont par exemple tous les 4 ans planter plutôt des légumineuses, des pois chiches, des lentilles, etc.
Pour nourrir justement le sol en azote.
C'est ça. Il y a aussi un petit côté sympathique, d'ailleurs si vous voyez, il y a un tableau de Peter van Bruegel qui s'appelle Les Moissonneurs, dans lequel on voit qu'à l'époque les blés avaient la taille d'une personne. Et donc cette grande taille permettait justement aux enfants de jouer à cache-cache. Moi, je suis allé voir des champs de blé et ma fille Chiara avec mon fils Lorenzo et Luca, ils ont fait que ça. C'est génial. Par contre, comme je le disais, le rendement est inférieur. Mais on est dans un produit qui est beaucoup plus riche aussi en minéraux, notamment le fer, le zinc, le potassium et le magnésium. Un produit qui est extrêmement varié. Donc, imaginons juste pour un instant, si toutes les grosses têtes qui aujourd'hui travaillent dans les laboratoires d'agronomie se disaient, bon, bah alors en fait, cette cochonnerie des blés modernes, on n'en veut pas. On revient au blé ancien. Moi, je lis dans le livre, je ne suis pas passéiste, je ne renie pas la valeur de la science, de la recherche, des biotechnologies. Il y a des blés anciens, comme celui qu'on utilise nous, qui s'appelle donc la variété Russello, qui sont très riches en fer. Les blés anciens, cette biodiversité, on doit s'en servir pour construire l'alimentation de demain.
Vous avez fait des recherches, vous avez fait des expériences, ça a été un travail de longue haleine également pour trouver ce blé dont vous allez faire votre pain vivant.
Tout à fait. D'ailleurs, dans le livre, à la fin, il y a une petite appendix dans laquelle on publie les résultats de ces recherches, qui montrent notamment que le pain fabriqué à base de farine de roussello, donc qui est une variété de blé dur originaire de Sicile, ne laisse finalement que 0% de résidus de gluten, ce qui est extrêmement intéressant.
Je voudrais juste, puisqu'on parle du gluten à nouveau, tordre le cou à un avis, parce que le gluten, on a des réactions au gluten, il y a des maladies justement qui sont suscitées par le gluten, mais le gluten à la base, c'est pas un problème.
Alors, vous avez depuis toujours ce qu'on appelle l'allergie au blé. Les gens qui en sont atteints ne peuvent pas manger des produits céréaliers à base de blé. Mais c'est une partie minuscule, on parle de moins de 0,1% de la population. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la maladie cœliaque, qui atteint environ 30% de la population. Il était déjà connu des Grecs anciens, tout simplement parce qu'en fait, les protéines du blé sont difficiles à digérer. Le gluten étant une colle qui les relie et permet d'avoir cette charpente magnifique des pains. Mais cette colle, elle est quand même difficile à dissoudre. Alors après, qu'est-ce qu'on a observé? À plus ou moins à partir des années 70, il faut rappeler que la révolution verte date des années 60, vous allez observer en fait une explosion de la courbe de la maladie cœliaque. Et ensuite, encore plus inquiétant, une explosion de ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin irritable. Ça, c'est mon hypothèse. C'est que comme tous les ans, il y a des milliers et des milliers de nouvelles variétés de blé qui sortent et qu'on sait, parce qu'on l'a dit, que les protéines sont quand même difficiles à digérer, nos intestins, en fait, sont bombardés sans cesse par ces nouvelles variétés de blé et donc de protéines. Et donc, ils ne savent plus comment se repérer. Et du coup, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec un caoutchouc infâme. Et effectivement, je ne mangerai pas de ce pain-là.
Non, vous ne mangerez pas de ce pain-là. Voilà. Nous non plus, d'ailleurs, je crois. The Fields of Love, semer les graines de l'amour. Tears for Fears sur RFI, bienvenue, vous écoutez Le Goût du Monde, le goût du pain vivant qui, au-delà du goût, prend soin de nous, de notre santé, de notre environnement. Ce pain, vous l'avez pensé, Adriano Farano, vous êtes journaliste boulanger, j'adore ce terme. Quel blé finalement pour lancer votre pain vivant?
Alors, je me suis pris de la façon suivante. Alors, en général, il faut savoir, les boulangers, ils vont voir plusieurs meuniers et ils prennent le prix le plus bas, en fait. Moi, j'ai travaillé avec des laboratoires spécialisés pour tester au niveau du gluten, au niveau des minéraux, ces blés, une fois qu'ils étaient transformés en pain, quels étaient notamment les résidus de gluten, donc de cette colle. Est-ce que cette colle s'est dégradée ou pas? Si oui, combien? Etc. Et donc, on est tombé sur une variété de blé dur. Il faut savoir que le blé dur, c'est un peu le papa du blé tendre. Donc, c'est une semence plus ancienne, plus ancestrale, qui, comme son nom l'indique, est dotée d'une coque très résistante et qui, grâce à cette coque justement, c'est un peu la théorie que j'ai développée, il va pouvoir mieux garder les minéraux qu'il aura extraits du sol, mais aussi il aura besoin de plus de soleil. C'est pour ça qu'on a moins de blé dur qui va pousser au nord de la Loire, voire pas du tout. Ça peut changer avec le changement climatique, évidemment. Et donc, on est tombé sur cette variété de Roussello qui nous vient d'un véritable terroir de blé, qui est donc la Sicile nord-occidentale, qui était déjà à l'époque des Romains, les greniers de l'Empire. Ça pousse, il faut le savoir, juste à côté des vignobles de Malvasia, des oliveraies de Castelvetrano et à côté des salines de Selmarin de Trapani qui étaient déjà exploitées par les Phéniciens.
On a les trois, hein. Voilà. Le pain, voilà. L'huile,
c'est
le
un
vin.
Vrai terroir. On est content. On peut vivre en confinement.
Donc ce blé, en l'occurrence, qui vous a aidé à trouver ces différents blés? Vous êtes renseigné? Est-ce que vous avez vu déjà des agriculteurs, des paysans, des gens qui produisent ce blé dur?
J'ai rencontré tous les gens dans la filière, en fait. Et je me suis nourri de ce que j'écoutais. J'ai quand même remis ma casquette de journaliste parce que j'ai toute une carrière auparavant dans le monde des médias pour vérifier tout ça. Des fois, on me racontait des salades. J'ai bien vu. J'ai rencontré aussi les grandes minoteries. Et je suis surtout tombé sur deux femmes incroyables. Marina Mefflet, qui est docteur en agronomie de l'université de Sassari, qui est d'origine libanaise et qui m'a tout appris sur les blés. Et ensuite, sur Marie-Françoise Sanson, qui est donc une experte de l'Institut National Français de Recherche en Agronomie pour l'Environnement, à qui j'ai exposé mon projet et qui, du coup, elle, sans aucun conflit d'intérêt, parce que ne travaillant pas dans une minoterie ou quoi que ce soit, m'a tout de suite, en fait, aiguillé vers le blé dur. Parce que mon projet, c'était très simple, c'était de redonner de la dignité au pain, une dignité nutritionnelle. Et il m'a dit, si tu veux faire ça, mieux vaut s'orienter vers des variétés anciennes de blé dur que vers des variétés anciennes de blé tendre, tout simplement parce qu'ils vont être beaucoup plus riches en minéraux, notamment le fer, mais aussi plus riches en ce qu'on appelle les caroténoïdes. Alors les caroténoïdes, je me suis renseigné, c'est assez sympathique, ça rend plus heureux et ça protège du cancer.
Mais ça se sent tout de suite. Donc, vous avez votre blé. Voilà. Maintenant, dans la confection d'un pain, on est d'accord qu'il y a du sel d'ordinaire. Je crois que vous choisissez un sel...
Sel de l'île de Ré.
On met de l'eau aussi.
Oui.
Et donc, cette eau, plus cette farine, plus ce sel, ça fait normalement un levain.
Oui, ça peut faire du levain.
Ça peut faire un levain et ça provoque une fermentation.
C'est ça.
Le rôle de la fermentation, justement, dans la confection de ce pain,
c'est
et donc
primordial.
Du levain.
C'est primordial, oui.
Et pourquoi?
Oui. La fermentation, déjà expliquons ce que c'est. C'est une sorte de digestion qui est faite par des micro-organismes minuscules.
Donc ils font le travail avant nous.
Ils vont pré-mâcher en fait, pré-digérer. Et ensuite, comme je l'explique quand je fais des interventions dans les écoles, ils vont faire des petits roux. Parce qu'en fait, ils sont régalés en sucre. Et du coup, en faisant ça avec la fermentation, ce qu'on appelle la fermentation lactique, qui est ensuite suivie par la fermentation acétique, en faisant ces petits roux, en fait, ils vont les faire au sein de la cage de gluten. Et c'est ça, en fait, ce gaz carbonique qui fait, bien évidemment, avec la cuisson va disparaître, va créer cette charpente magnifique qu'on évoquait tout à l'heure. Et la fermentation au levain naturel, les gens peuvent le faire à la maison, c'est très simple. On met de l'eau, on met de la farine, on mélange en part égale et on laisse dans une terrine, comme ça, on l'oublie.
C'est
d'ailleurs... Non, au départ non. Justement parce qu'il faut capter les bactéries qui sont dans l'air. Cette pâte, au bout de quelques heures, en été ça va être 5-6 heures, en hiver ça va être peut-être 18-20 heures, vous allez commencer à avoir des petites bulles. Ça c'est quoi? C'est justement les bactéries qui sont goinfrées.
Qui sont en train justement de voilà. réagir. C'est ça, une fermentation.
C'est ça, parce qu'en fait le blé c'est surtout de l'amidon. Et l'amidon en fait, dès lors que c'est digéré, ça se transforme en sucre. Et ils vont digérer tout ça, et cette pâte-là, si vous continuez à l'alimenter en farine et en eau, vous créez un levain. Alors moi, les levains, j'en ai créé plusieurs. Mais ce qui est encore plus sympathique, c'est d'en récupérer un qui soit vieux. Parce que les gens avant, c'est ça qu'ils faisaient.
C'est ça, si on revient au blé ancien, donc on revient au boulanger qui fait son pain et qui fait son levain.
Qui fait son levain,
et
voilà.
Qui maîtrise du coup la fermentation
c'est
aussi.
C'est ça. Il faut savoir que ça, aujourd'hui, le pain au levain à Paris, vous prenez 100 boulangeries qui vous vendent du pain au levain, il y en a peut-être sur 100, il y en a une peut-être qui fait du levain naturel. Le levain naturel, c'est ce que je viens d'expliquer. Après, les autres, on peut me demander comment ils font. Est-ce qu'ils prennent de la levure? Oui, ils rajoutent aussi de la levure. Sauf que le levain qu'ils vont mettre, c'est un peu des flocons, c'est du levain déshydraté, c'est un levain vilain.
Mmh. Non, mais on a compris votre démarche voilà. très clairement. Ce levain, justement, il va aussi développer il est à la base des goûts.
Oui, alors il est à la base des goûts. Il est à la base du fait que le pain puisse baisser son indice glycémique. Alors ça, c'est fondamental.
Donc ça, c'est le taux en sucre, l'indice glycémique.
C'est la glycémie, voilà. C'est combien de sucre il y a dans le sang à un moment donné. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des aliments qui sont hypoglycémiques, qui vont
donc
en fait relâcher les sucres
sucre.
Très lentement. Et du coup, qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne un sentiment de satiété beaucoup plus longtemps. Et surtout, ça vous ne dérègle pas la circulation sanguine. Ça ne va pas pomper trop d'insuline trop vite.
Donc un levain naturel.
Un levain naturel, ça sert comme premier avantage. Le deuxième avantage, vous l'avez vu, Clémence, dans le pain que je vous ai apporté tout à l'heure, qui est donc un pain d'un jour et demi, ça permet au pain de se garder plus longtemps. Une baguette à la levure va durer quelques heures. Un pain véritablement au levain et que au levain va se garder une semaine. Et le troisième avantage, c'est effectivement un avantage de goût. Et là, le boulanger va être un peu comme un peintre qui va doser la quantité de levain pour pouvoir donner un peu plus de goût, ce qui peut être fait avec ce que j'ai appelé tout à l'heure la fermentation acétique, qui en fait, contrairement à la fermentation lactique, va se passer au froid positif.
Parce que là, on est comme dans le vin.
On est comme dans
le
vin.
On est dans un même processus.
On
a une matière première, qui en l'occurrence est la farine, donc le blé, qu'on fait fermenter, et c'est de cette fermentation que va naître ce pain vivant. Alors,
et justement, pardonnez-moi Clémence, moi je ne comprends pas pourquoi quand je rentre chez un caviste, j'ai le droit de savoir quels sont les cépages d'une bouteille de vin, et quand je rentre dans une boulangerie, je ne peux pas savoir quelle est la variété du pain. Alors évidemment, petit à petit, ça commence à changer. Vous pouvez trouver du pain de Camut, etc. Mais la plupart du pain, vous demandez à votre boulanger demain, qu'est-ce que vous mettez comme variété de blé dans la baguette, il va vous répondre toujours, il m'a dit, c'est la farine de froment. Ok, c'est sympa le froment, mais en fait le froment c'est le blé, et vous
c'est
savez qu'il y a 16 000 variétés de blé.
En tout cas, votre affaire de pain vivant,
oui.
Elle suscite un intérêt évidemment.
Oui,
donc,
ça
et une curiosité, parce que donc, vous ouvrez votre laboratoire juste avant le confinement, les gens viennent, passent, sont intrigués par cette cheminée d'où s'échappent des effluves délicieuses, et vous contactez des chefs de restaurant,
oui.
À qui vous proposez votre pain. Sugio Yamaguchi, qui est le chef du restaurant botanique, donc à Paris toujours, il est japonais, et il se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de pain vivant? Et donc, il est venu faire un stage chez vous.
Déjà, c'était pour voir comment ça se fait un pain, mais en même temps, c'était pour apprendre un petit peu comment ça se fait au-delà du pain. Et lui, il parlait de la vie, en fait. Donc, c'est ça qui m'a intéressé, donc je voulais voir comment ça se fait.
De quelle manière est-ce que votre compréhension du pain a-t-elle évolué?
Donc, c'est le pain, bien sûr, mais en fait, c'est vraiment au-delà justement les pains qui sont vivants. Donc, chaque pièce qui a son caractère, se situe quand on met dans le feu. C'était, je sais pas comment dire, j'ai bien compris que le pain est vivant.
Donc vous avez vu le pain naître, en fait.
Voilà. C'est évident parce que déjà, les ingrédients qui sont naturels, donc le pain qui est fait naturellement avec un peu d'aide des gens, avec l'humain, bien sûr. Mais sinon, y a la farine, il y a de l'eau, il y a de sel et du levain. Il y a tout ce qui est de naturel. Donc pour moi, c'était assez évident et c'était très clair. Donc moi, j'étais très content de voir tout ce qui se passe.
En plus, après, vous êtes allé voir un producteur de blé. Pourquoi est-ce que ça vous intéresse autant, justement, d'aller à la rencontre de ce pain-là?
Je fais beaucoup d'attention à ce que je mange et bien sûr, ce que je sers aux clients. Je n'ai pas envie de mettre les choses que je ne sais pas comment ça se fabrique. Il y a beaucoup de farine qu'on trouve. Et donc, avec Adoliano, on parlait de blé ancien qui est bien commun pour la santé et qui est bien pour la nature. Et donc, c'est pour ça que j'étais allé voir Philippe Guichard, qui est dans le sud-ouest, qui fait ses blés anciens depuis très longtemps. Mais c'est très naturel. Il y a beaucoup de travail derrière, mais c'est assez facile à faire, en fait. Mais comme on doit faire beaucoup en quantité, il y a un gros problème. Donc, justement, il y a des gens comme Philippe Guichard qui s'en fout un peu de faire la quantité, comme Adoliano qui s'en fout de faire la quantité, mais il y a des gens qui veulent faire la qualité. Donc, ces gens-là, bah, qui m'intéressent beaucoup. Donc, j'essaie de rencontrer avec ces gens-là.
Soulio, quel goût avait ce pain?
C'est vraiment le goût de la farine de blé dur. C'est-à-dire, quand on mange les bonnes pâtes italiennes, on sent ce goût-là. Donc, c'est vraiment le goût de blé dur en champ, ouais, qu'il faut connaître.
Peut-être
voilà.
Une question que vous souhaiteriez poser à Adriano.
Justement, bah, quand est-ce qu'il fera les pâtes avec ses farines?
Alors, réponse Adriano Farano.
Ce que j'ai appris dans la Silicon Valley, c'est qu'il faut faire une chose à la fois et bien. Mais les pâtes, Sugio, si tu m'écoutes, je t'invite à la maison parce que j'en ai faites pour moi, mais pas sur une échelle d'une boulangerie.
Donc, Sugio a dit plusieurs choses dans ce qu'il nous a raconté, notamment qu'il a rencontré des producteurs de blé.
Vous vous êtes
rapproché de ces producteurs, vous travaillez comment avec eux?
Oui. Alors, nous on a un regret, entre guillemets, c'est que la farine, on doit aller la chercher en Sicile. C'est un regret juste parce qu'en fait, il y a un impact environnemental. Malheureusement, en France, les blés durs de variété ancienne, il y en a très peu. Et ce cultivateur que cite Sugio, Philippe Guichard, il travaille très bien, mais il a pas une quantité folle d'ailleurs.
C'est ce qu'il a dit d'ailleurs.
Voilà. Et en fait, ce serait pas suffisant, ne serait-ce que pour notre boulangerie, notre petite boulangerie, si on voulait prendre que son blé. Après, la Sicile, l'avantage, c'est qu'elle produit à elle seule les deux tiers du blé ancien de toute l'Italie. Et c'est pas un fait nouveau, ça fait des millénaires. Et qu'en plus, l'impact environnemental est très réduit parce que vous avez pas besoin d'engrais chimiques qui donc vont polluer les nappe phréatique, et vous n'avez surtout pas besoin d'irrigation. Donc l'un dans l'autre, en fait, on s'y retrouve.
La première fois que les clients, enfin les gens, sont passés devant votre laboratoire et ont goûté votre pain, quelle tête ont-ils fait?
Ça a été magique. Nous, d'ailleurs, les gens qui, en fait, vendent le pain chez nous, on les appelle les éclaireurs, parce que leur but, moi je leur dis, c'est pas de vendre, c'est d'éclairer le public, de leur apporter, en fait, cette lumière qui a la lumière de l'information. Les gens, au début, ils étaient curieux. Pour la plupart, ils avaient jamais été confronté à une telle explosion de goût dans la bouche, à cette longueur en bouche, parce que là, je sais pas vous, mais j'en ai mis en bouche il y a quelques minutes et le goût, il est toujours là. C'est quand même incroyable. Nous, en plus, on met beaucoup. Au moins, voilà. On met moins de sel aussi. On met 20 à 30% moins de sel. Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin. Entre le levain et le blé dur, il y a une explosion de goût intéressante. Après, il y a eu des gens, alors c'est intéressant, qui avaient passé une partie de leur enfance, des gens assez âgés, en Afrique du Nord, qui nous ont dit « ça me rappelle mon enfance ». Et effectivement, l'Afrique du Nord a été pendant longtemps un terroir de blé dur. D'ailleurs, il y a c'est drôle parce qu'il y a une variété de blé dur qui est le Senatore Cappelli, qui en fait est originaire de là-bas. Il y en a une autre qui s'appelle Bidi, qui est aussi originaire en fait d'Algérie. Et donc, on voit vraiment... moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit « c'est génial » parce que c'est un peu un pont entre les générations, entre les deux rives de la Méditerranée. C'est magnifique. Après, il y a aussi des gens qui ont dit, moi je préfère la baguette. Mais nous, notre rôle, c'était pas juste de les vendre. Et du coup, on répondait, bonne chance à votre intestin, bonne chance à vos voies sanguines.
Time.
Staying Alive, rester vivant, les Bee Gees sur RFI.
C'est si difficile en ce moment.
On est bien quand même là.
Oui, hein,
Staying Alive, c'était pour vous.
Voilà, génial.
Comme un cadeau.
Vivo, ça va très bien.
Pane Vivo, je me suis dit Staying Alive, forcément. Alors Pane Vivo, qu'est-ce que c'est? C'est une boulangerie. C'est un projet vivant d'Adriano Farano. On est à Paris, on est à Ménilmontant. Je voudrais savoir un petit peu, parce que en vous écoutant, donc on se dit, voilà, c'est bon, maintenant je vais manger un pain avec une fermentation naturelle, avec un levain, des blés durs. Mais comment on fait pour tous avoir accès à ça?
C'est extrêmement difficile aujourd'hui. Notre objectif, c'est que d'ici 10 ans, au moins dans le monde occidental à minima, ces techniques de fermentation et de fabrication soient accessibles à tous. Il nous faut du temps. On a commencé dans un tout petit quartier de Paris et avec un objectif qui était non seulement de nourrir le corps, mais aussi de nourrir l'esprit. C'est pour ça que moi, je me définis comme journaliste boulanger, parce que la moitié de mon travail, c'est de jeter les bases pour que ce pain puisse
défricher devenir... pour faire émerger ce pain et après pouvoir
tout à fait. Et le livre, Je ne mangerai pas de ce pain-là, fait partie intégrante de cette stratégie parce que on a envie que ça puisse jaillir bien au-delà de nous. Alors évidemment, on a des ambitions de travailler avec d'autres boulangers. D'autres boulangers.
Ce que je voudrais, c'est que ceux qui nous écoutent, là,
oui.
Se disent, je peux faire aussi, moi.
On a besoin de conversion, on a besoin de vocation. Et le mot conversion est bien choisi parce qu'aujourd'hui, on nous veut en fait tous adeptes de la malbouffe. Moi, je me promenais dans Paris l'autre jour lorsque j'ai vu une publicité d'une grosse marque de sucre qui disait que le sucre était une plante. Alors évidemment, la vodka est une plante aussi et la cigarette est une plante parce que ça vient du tabac. Non, mais on vit dans quel monde? On est en pleine crise du Covid, on sait que les gens qui sont obèses sont beaucoup plus prônes à prendre cette maladie. On doit se ressaisir comme civilisation, on doit redonner de la dignité au pain, on doit remettre la nutrition au centre de notre débat public. Et j'espère que ce cri d'alarme, parce que dans la deuxième partie du livre, je parle bien d'urgence sanitaire, le pain étant l'aliment le plus consommé, du coup ayant le plus fort impact sur notre santé parce qu'aujourd'hui il est beaucoup trop sucré, il est beaucoup trop salé. J'espère que ce cri d'alarme puisse effectivement susciter des conversions.
Bon, donnez-nous envie. Vous avez dit que je l'avais goûté.
Oui.
Mais alors, on va juste reprendre ce pain parce que vous m'avez donné effectivement un morceau de pain tout à l'heure. Donc, Samy est bien charnu.
Oui.
Il sent très bon. Il a plein de parfums. On a un petit peu de, comme un petit peu de pain d'épices, de cannelle. On a des épices dedans. Vous avez dit tout à l'heure qu'on pouvait le garder longtemps.
Oui.
Donc, une fois qu'on le garde longtemps, ça veut dire qu'on peut l'utiliser une fois qu'il est rassis?
Oui. D'ailleurs, je vais vous vendre la mèche. Mon ambition, c'est de faire un petit livre aussi sur comment cuisiner le pain rassis parce que ça peut devenir un véritable ingrédient. Si vous prenez, par exemple, une tranche de vieux pain, moi, j'en ai fait l'autre jour. En fait, là, en ce moment, dans mon frigo, il y a du pain d'il y a 3 mois que j'ai mis à tremper hier soir pour le manger ce soir, avec de l'œuf, un œuf battu, un peu de lait, un peu de miel, et qui est donc en train de s'imprégner de tout ça, que je vais ensuite passer légèrement dans du beurre fondu pour en faire du pain perdu. En fait, pour retrouver le vrai pain, il faut savoir le perdre. Il faut redécouvrir le goût du pain perdu. Et vous pouvez le faire dès lors que c'est un pain qui est riche en fibres, qui est un pain qui est charnu, qui a une vraie personnalité, et non pas quand vous avez un pain caoutchouc, carton limite, qui
n'a pas ça,
du tout
ça, c'est
voilà.
Bon,
ça, c'est bon.
On
voilà.
A oublié celui-là. Et ça. On peut peut-être le faire griller aussi. Est-ce qu'on
on
en fait pas
griller.
Une chapelure?
Tout à fait. Oui, chapelure, c'est incroyable.
Allez, donnez-nous une petite recette, là.
Alors, la recette que j'ai vue l'autre jour, alors avant qu'ils ferment, les pauvres, il y a ce restaurant de le 17e arrondissement qui s'appelle l'Agapé. Ils en avaient fait effectivement une sorte de chapelure qu'ils avaient mis sur un poisson, je crois que c'était un bar, c'était absolument incroyable, avec une petite, un petit pistou d'asperges, c'était trop bon.
On peut le transformer en épices, ce pain?
On peut le transformer en ingrédient. Alors, il faut rappeler que c'est que du blé écrasé. Mon meunier, d'ailleurs, cette farine l'appelle du jus de blé dur. Parce qu'en fait, on est sur un taux d'extraction de 95%.
Ça veut rien dire.
Vous prenez un sac de 100 kilos. vous en tirez 95 de farine, ça veut dire que vous avez un taux d'extraction de 95%. Il faut savoir que la farine blanche, c'est plutôt 70-75.
Dont on fait les baguettes.
Voilà. Et donc, avec un taux d'extraction si élevé, on peut vraiment garder les parties les plus intéressantes du point de vue nutritionnel, donc notamment les enveloppes, le germe, les huiles essentielles. Et c'est pour ça qu'en fait, il a autant de goût. Ouais. En plus d'être évidemment une variété ancienne.
Et autant de qualité, alors, du coup.
Et autant de qualité aussi pour le corps, effectivement, oui. Pour la santé.
Donc en gros, si on prend la baguette, la farine blanche, c'est raffiné, c'est presque lavé,
c'est de l'amidon.
Ça n'a plus rien.
Oui, c'est de l'amidon, donc d'un point de vue, c'est des calories vides. C'est-à-dire que l'amidon, il faut rappeler ça quand même, on a eu pendant, quand moi j'étais petit, une fake news qui, on m'a dit, elle subsiste encore dans les établissements scolaires, des sucres lents, les sucres rapides. En fait, ça n'existe pas, ça. Le pain, c'est pas du tout un sucre lent. ce qui importe, c'est l'indice glycémique. Et l'indice glycémique du pain moderne, malheureusement, il est extrêmement élevé. Il est plus élevé pour ce qui est de la baguette blanche, que le Coca-Cola, que le Mars, que le Chocapic, que tout ça. Il est plus élevé. C'est quand même un scandale. Et on le vend comme si c'était des sucres lents.
Donc en gros, quand on mange toute une baguette, on a encore faim. Quand on mange un petit peu de pain vivant, on n'a plus faim.
On a plus faim, on a un très beau sentiment de satiété. Moi, avec 2-3 tranches le matin à 7h30, je suis bon jusqu'à 14h, parce que les Italiens, on mange tard.
Hein. Et on se sent bien.
Oui, on se sent bien.
Et on est bien,
et on est bien. C'est la vie. C'est la vie, la vraie, et c'est on prend soin de nous, dans le sens non pas qu'on reste barricadé chez soi, tout plein de gel hydroalcoolique et de chloroxidine ou de, de javel.
Non, Adriano, l'émission est en train de se terminer, on ne peut pas terminer sur ce genre de mots.
Alors
vantez-nous un petit peu de farine de châtaigne, et par exemple, voilà, votre pain de demain, parce que c'est ça l'idée aussi, c'est de pouvoir avoir un blé de demain, parce que vous ne pensez pas hier. Vous prenez ce qui a été fait bien hier pour faire quelque chose de bien demain. Alors faites-nous rêver.
Oui. Non mais voilà, il faut choisir la vie. Et choisir la vie, ça veut dire bien se nourrir, avoir un impact positif sur l'environnement et puis aussi se régaler. Et les trois éléments, donc l'impact sur la santé humaine, sur la santé de l'environnement et quand même sur le goût, les trois choses vont ensemble. Et c'est quand vous vous régalez vraiment, que vous n'êtes pas juste en train de manger des trucs qui sont trop sucrés, trop salés, mais que vous sentez le goût des choses, j'aurais presque envie de dire le goût du monde, c'est là que véritablement vous pouvez redevenir homme ou femme. Vous pouvez véritablement prendre soin de cet environnement, prendre soin de vous et prendre soin de la vie aussi, qui aujourd'hui est un petit peu menacée.
Vous êtes vivant, en somme.
Yes.
Alors, vous nous avez apporté, n'est-ce pas? Parce que c'est une tradition dans le goût du monde, on le sait. Toujours à cette heure-là, un ingrédient, un ustensile. Alors,
là,
j'ai dans la main.
Vous avez Viviana dans les mains, qui est donc enveloppée dans un petit bocal en verre. Viviana, c'est donc notre levain. C'est un levain qui m'a été offert par un ange qui s'appelait Davide, dans la ville de Pérouse, en Ombrie. Davide lui-même l'avait récupéré d'un des plus grands chefs italiens, qui s'appelle Gabriele Bonci. Et Gabriele Bonci l'a récupéré dans une boulangerie d'Épouille, qui a été fondée en 1887. Et donc c'est un levain qui a l'âge de 132, bientôt 133 ans.
Et on est d'accord, un levain, ça se donne et ça se partage.
C'est ça.
Ça ne se vend pas.
Exactement. Donc il y a des gens pendant le confinement, effectivement, qui venaient nous demander « Est-ce que vous vendez votre levain ?» Moi, je disais « Non !»« Ah bon, mais pourquoi ?» En fait, on le donne. Qu'est-ce que vous voulez dire on le donne. Il y a un monsieur qui était énervé.
Qu'est-ce que vous voulez dire, on le donne ? N'importe quoi.
On l'offre. Ah bon ?
Tout se vend.
Venez avec votre bocal et je vous en donne. Et effectivement, parce que c'est juste un peu d'eau et de farine, avec énormément de micro-organismes qui vont faire ce travail si précieux. On l'a fait analyser par les équipes de Delphine Sicard et Laurence Mietton à l'INRAE de Montpellier aussi. Et donc, la jolie Viviana, donc une dame de 132 ans, elle est bien en forme. Il faut savoir que dans un gramme de Viviana, il y a 2,9 milliards de bactéries lactiques.
Elle saute d'ailleurs, Viviana. Et votre ustensile,
elle pète la forme.
Elle pète la forme, exactement.
Oui. Mon ustensile, c'est juste un coupe-pâte. Et alors, je l'ai pris le coupe-pâte parce que, alors déjà, moi, quand je coupe les bâtons avec ce coupe-pâte-là, ça me donne presque un sentiment d'anti-stress. Mmh. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de boulangeries, en fait, qui ont des diviseuses, des machines qui vont couper les bâtons pour qu'ils soient tous exactement pareils. Et c'est fait par une machine, c'est juste incroyable. Nous, on le fait toujours à la main. Et
c'est un beau geste.
Ça donne envie.
Juste avant que vous partiez, parce que pour que je sache clairement déguster ce pain,
oui.
Je fais attention à quoi ? Il y a tous les sens en éveil, on est d'accord ?
Alors, il faut qu'au niveau de la vue, il faut le premier élément, regarder les yeux, regarder le pain dans les yeux.
Le pain dans les yeux, c'est les petits trous.
C'est les petits trous, c'est les alvéoles. Il faut qu'il y en ait beaucoup.
Beaucoup, il y en a beaucoup.
Ça veut dire que c'est du levain naturel. Deux, il faut que la coupole du pain, toujours au niveau de la vue, soit pas trop bombée. Ça, c'est un signe que le gluten est peu tenace et du coup, il va être a priori plus digeste. Il faut ensuite le tâter.
Je tâte.
Voilà. Et là, il faut sentir une certaine humidité.
Résistance, humidité, c'est effectivement, et une résistance.
Exactement. Au niveau de l'odorat ensuite, il faut, là, vous allez sentir, vous devez sentir des arômes qui vont au-delà juste du levain, quoi. C'est quelque chose de plus intéressant que ça. Les gens nous disent le pain d'épices, la verveine, la noix fraîche. Et ça va dépendre de la qualité aussi du blé, la variété du blé. Au niveau de l'ouïe, ça, c'est au moment où vous le mettez en bouche, il faut que ça fasse. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le levain, je n'ai pas encore pu trouver d'explication scientifique, mais le levain, en fait, va stimuler votre salivation. Mmh. Essayez de manger ce pain-là et après un bout de baguette. Quelle horreur. Le bout de baguette, il va vous laisser la bouche sèche.
Alors que là, heureusement que je ne l'ai pas mangé avant l'émission, sinon je n'aurais pas pu parler parce que je salive.
Voilà, c'est ça.
Donc on est bien.
Et donc au niveau de l'ouïe, par contre, il ne faut pas trop que ça craque. S'il craque, c'est signe que l'indice glycémique va être trop élevé. Le goût, au niveau du goût, il faut que ça soit un goût qui puisse rester en bouche longtemps. Qui se disperse pas juste comme ça. Du coup, moi j'aime bien la métaphore du tango pour mon pain. Vous voyez le tango, dans le tango, la prima donna, c'est pas le ballerino, c'est la femme. Mais le ballerino, il faut quand même qu'il puisse lui tenir tête. Mmh. Il faut qu'il la fasse danser. Mmh. Sans trop s'effacer, mais c'est quand même elle qui reste au centre. De la même façon, un bon pain, il doit pouvoir être capable de se mettre au service, presque de, comme dit Roland Feillas, un boulanger du Sud-Ouest, d'avoir un rôle presque chevaleresque des mets, mais il faut quand même que les mets soient au centre. Et c'est ce goût qu'il faut retrouver. Dulcis in fundo, comme disaient les latins, la digestion, qui est pour moi le sixième sens. Il faut que ça soit un pain qui descende un peu comme une lettre à la poste et qui vous laisse vraiment ce sentiment de vous être régalé, mais quand même rassasié.
Et léger. Léger au final.
Exactement.
Et on est bien, comme ça
une
on peut entamer ce
qui va être en fait indirectement proportionnel lorsque au premier abord vous le voyez ce pain, il a l'air presque d'être trop compact. En fait, c'est inversement proportionnel, ça va être encore plus léger.
Merci.
Grazie.
Adriano
Merci
Farado.
Beaucoup.
Merci beaucoup. Je ne mangerai pas de ce pain-là. C'est un manifeste et un plaidoyer, une promesse. En même temps, c'est publié aux éditions du Rouergue. Nous mangerons du pain vivant. En le glanant chez vous, Pane Vivo, nous mettrons les adresses sur les pages du Goût du Monde. Et vous dites-nous, de quoi est donc fait votre pain? De quel blé? De quel mélange de céréales de chez vous? Avez-vous fait l'expérience d'un pain que vous avez du mal à digérer? Au contraire, d'un pain justement qui vous fait vous sentir bien? Racontez-nous, expliquez-nous les solutions que vous avez trouvées sur les réseaux sociaux. Sur WhatsApp 33 6 43 161 566. Merci beaucoup à Olivier Roux pour la réalisation et la mise en onde de cette émission que vous pouvez partager, commenter autant qu'il vous plaira. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Même table, même heure.